Donc pendant l'année, comme vous savez, c'est une maison qui sert pour les séminaristes. Et puis l'été, occasionnellement, depuis quelques années, elle sert pour cette retraite de dames. Alors qu'est-ce qui vous a conduit à faire cette retraite ici? Plusieurs motifs, hein, peut-être conjoints d'ailleurs. Parmi ces motifs, sans doute le désir de souffler un petit peu au milieu de toutes vos activités. Et donc vous avez répondu à l'appel de notre Seigneur qui dit « Venez à l'écart et reposez-vous un peu ». Saint Marc, chapitre 6, verset 31. Ou encore le désir peut-être aussi de prendre du recul par rapport à vos activités pour vous recentrer, pour mieux gérer votre temps, pour éviter peut-être le surmenage qui est inhérent à cette vie moderne. Pour d'autres encore, cette retraite a pour but, et certainement j'espère pour toutes, de vous rapprocher de Dieu. Donc vous avez la conscience de ne pas avoir toujours une vie intérieure aussi profonde que vous le souhaiteriez. Vous avez peut-être l'impression de stagner un peu dans votre vie spirituelle ou de vous attiédir. Et donc, en voulant passer 5 jours ici, vous voulez refaire le plein spirituel pour pouvoir repartir sereine, confiante, dans quelques jours. Alors pour certaines d'entre vous, c'est devenu une habitude, une très bonne habitude d'ailleurs, de faire une retraite tous les ans ou tous les 2 ans. Et puis d'autres peut-être qui sont ici un peu par hasard, enfin le hasard n'existe pas, mais par un dessein mystérieux de la Providence, c'est une amie qui vous a lancé dans cette aventure. Viens à Flavigny, c'est super. Ah bon? On mange bien? Donc c'est un beau paysage. À quelle heure on se lève? Ça ne vous l'a pas encore dit. Enfin, quel que soit le motif ou les motifs de votre venue ici, vous êtes ici ce soir avec vos craintes, votre appréhension, vos soucis, vos désirs aussi, votre espérance. Donc il s'agit de vivre au mieux ces 5 jours dans la sérénité. Et pour cela, tout d'abord quelques avis pratiques, et puis après je donnerai des avis un peu plus spirituels, enfin des conseils plus spirituels. Tout d'abord, donc le but d'une retraite, c'est avant tout de se rapprocher de Dieu, donc de prier. Mais pour bien prier, c'est vrai que c'est important de... quand on peut au moins, de bien manger, de bien dormir. Parce que quand on ne mange pas bien, on n'est pas très bien. Et quand on ne dort pas bien, ben on n'est pas très bien non plus. Donc, celles d'entre vous qui auraient un régime alimentaire, qu'elles n'hésitent pas à le dire. Donc, il y a soit le frère Jean-François, ou alors 2 séminaristes, Rémi Picot et Jean-François Mourou, qui sont là, qui se mettront à votre service pour essayer de vous satisfaire dans la mesure où on le pourra. Et si vous avez difficulté à dormir, eh bien pensez que peut-être que vos voisines, elles, désirent dormir, et donc essayez de faciliter autant que possible le repos de vos voisines, parce que la maison est parfois, dans certains endroits au moins, un peu bruyante. Donc évitez spécialement d'utiliser les robinets après 22 heures le soir et avant 6h30 le matin. Également, pour faire une bonne retraite, n'hésitez pas, si le temps est aussi beau que cet après-midi. Ce n'est pas toujours le cas ici, hein, je vous signale, mais enfin, nous avons de la chance, il fait beau aujourd'hui. Donc, s'il fait aussi beau pendant 5 jours, profitez-en en tout cas pour prendre l'air. Normalement, c'est aussi important pour faire une bonne retraite de prendre un petit peu l'air. Donc, soit dans le séminaire, c'est l'idéal, ou même aussi, vous pouvez sortir. Enfin, le but, c'est quand même pas de visiter le village tous les jours, hein. Mais en longeant ici le séminaire, après en reprenant tout de suite le petit chemin sur la droite, on est ensuite très vite dans la Verte. Donc si vous voulez vous aérer, n'hésitez pas. Voilà, il y a des livres de prêt sinon qui se trouvent dans le couloir. Donc il y a des livres pour acheter et puis des livres pour emprunter. Donc demandez conseil éventuellement aussi si vous n'avez pas quel livre lire. N'avalez pas 36 livres pendant ces 5 jours, c'est pas le but non plus. Mais un bon livre peut faire beaucoup de bien. Les horaires de la journée sont affichés sur la porte ici à l'extérieur. Donc il suffit de regarder. Donc demain c'est un petit peu une exception en raison de la messe qui a lieu à 9h, parce qu'elle est annoncée à 9h pour les mois de juillet, août et septembre. Le lever sera à 6h30. Hein. Donc d'habitude c'est 7h, grâce matinée jusqu'à 7h. Mais demain c'est 6h30. Et le petit déjeuner aura lieu demain à 6h50, donc il n'y a que 20 minutes pour se préparer. Mais voilà. Alors maintenant, celles qui voudraient faire dormir un peu plus, en ce moment-là, elles pourront prendre simplement une boisson à 8h. Enfin, voilà, pour demain matin. Ensuite, pendant la retraite, c'est aussi important pour vous, hein, je pense, de visiter les prêtres. Donc 4 prêtres seront à votre disposition. Donc vous voulez peut-être voir quelle est la tête des prêtres qui sont là, mais en fait, ils ne sont pas encore arrivés, les autres. Il y a Berbaïf qui est là, mais qui, lui, ne prêche pas. Donc les 3 autres prêtres ne sont pas encore là. J'espère qu'ils seront là demain, pour vous et pour moi. Donc on a M. l'abbé Touvenot, normalement, qui doit prêcher cette retraite, qui est recteur de l'Institut Saint-Pidis. Monsieur l'abbé Bourra, qui est professeur à l'école de Courbevoie, à Paris. Et puis monsieur l'abbé Toulza, qui est professeur du séminaire à Écône. Donc, n'hésitez pas à voir les prêtres. Oui, peut-être que je vous dirai mieux demain, ou je peux le dire dès maintenant. Donc, les bureaux. Donc, mon bureau se trouve au premier étage, donc couloir Saint-Jean, c'est juste ici derrière, il y a un escalier, donc premier étage. Mon nom est sur la porte. Ensuite, dans le prolongation ici du couloir, vous avez Monsieur l'abbé Touvenot, je crois. Donc, il y a écrit parloir. Donc, c'est juste au fond de ce couloir. Ensuite, Monsieur l'abbé Bourra se tiendra en salle Saint-Pidis. C'est la salle qui se trouve à l'opposé ici. Alors, demain, vous pourrez tout le loisir de vous prendre vos repères. Et Monsieur l'abbé Toulza, lui, recevra donc dans le couloir Saint-Benoît. Donc c'est le couloir opposé. Au milieu, vous avez un escalier. Vous prenez le premier étage sur votre droite. Et là aussi, normalement, l'itinéraire est fléché. Donc normalement, ça devrait aller. Vous avez 5 jours pour repérer les bureaux des prêtres. Donc, ça devrait aller. Voilà. Alors ensuite, si vous avez des difficultés particulières, donc soit vous pouvez en parler à un prêtre ou en parler donc au frère Jean-François. Donc c'est le frère qui est le plus grand du séminaire. Ou aux 2 séminaristes qui seront aussi à votre disposition. Voilà pour les choses un peu pratiques. Aussi, une dernière chose, si on m'a dit, c'est que l'année dernière, je ne m'étais pas rendu compte, mais qu'il y avait des retraitantes qui changeaient de place à peu près à chaque fois. Donc, certaines aiment bien avoir leur place attitrée. Donc, leur place était piquée par la voisine. Donc, pour éviter les médisances ou les calomnies intérieures ou les vengeances ou les coups de colère. Donc, essayez de choisir votre place pour demain. Si certaines sont malentendantes qui veulent le premier rang, donc demain matin, vous arrivez les premières pour avoir votre place au premier rang. Si d'autres, eh bien, préfèrent au contraire cool être plus au fond, donc à vous de choisir. Mais ensuite, après, c'est bien de ne pas changer de place au cours de ces 5 jours. Voilà. Alors maintenant, après ces considérations pratiques... Ah oui, encore une petite chose, encore. Décidément, il y a des petites choses pratiques qui se rajoutent. Nous demandons, dans ce type de retraite, aux dames, d'avoir la tête couverte à la chapelle. Alors, au cours de la retraite, peut-être qu'on aura plus l'occasion de vous expliquer pourquoi le symbolisme de la tête couverte, un symbolisme qui est très beau d'ailleurs, parce que on peut dire que les grands moments de la vie d'une femme se passent sous le voile. Vous avez le voile de la du bébé, donc le voile au moment du baptême. Ensuite, il y a le voile de la première, de la communiante, le voile de la mariée, le voile de la veuve, le voile de la religieuse. Donc, les grands moments de la vie d'une femme se passent sous le voile, et justement parce que le voile est un symbole de féminité. Et donc, ce symbole, l'Église demande que la femme l'exprime spécialement à la chapelle devant le bon Dieu. Donc voilà. Donc du coup, alors on vous met des foulards à la sortie, donc à la porte de la chapelle. Donc voilà, en général ça se passe bien. Maintenant, si après l'une ou l'autre serait vraiment récalcitrante, eh bien qu'elle vienne me voir dans mon bureau après les complices, on s'arrangera seul. Mais enfin bon. Voilà, donc ça c'est pour les détails pratiques. Donc maintenant, quelques considérations alors spirituelles pour bien rentrer dans l'esprit de la retraite. Le but d'une retraite, c'est de se reposer en Dieu. Donc se reposer en Dieu, ça veut dire, voyez, dans se reposer, donc il y a l'aspect de repos, donc de calme, et ça montre que dans la prière, spécialement, il faut laisser le bon Dieu agir dans notre âme. Donc dans la vie de tous les jours, c'est nous souvent qui prenons les initiatives de faire ceci ou cela. Donc dans une retraite, eh bien il faut se laisser porter un petit peu par le rythme de la providence. Donc le bon Dieu veut vous parler certainement, hein. Il vous parlera par les prêtres, par les instructions, ou par les lectures que vous entendrez à table, ou également aussi dans le silence, parce que le bon Dieu parle dans le silence, ou à travers le livre que vous aurez choisi et qui pourra aussi être un guide, mais certainement que le bon Dieu veut vous parler pendant cette retraite. Donc vous devez vous mettre en condition, en fait, pour pouvoir écouter cette voix de Dieu. Donc le rôle de l'âme, en fait, par rapport à Dieu, c'est beaucoup plus de se disposer à entendre cette voix de Dieu en sachant que c'est pas à nous de fixer l'heure de rendez-vous. Si le bon Dieu veut vous parler plus à tel moment ou à tel autre, plus au début de la retraite, plus au milieu ou plus à la fin, c'est lui qui choisira. Ou même tout le temps aussi, dans la retraite, c'est lui qui choisira. Mais c'est à nous de nous mettre en condition pour entendre cette voix de Dieu. Et pour entendre cette voix de Dieu, eh bien, il faut essayer d'avoir l'esprit ouvert, un esprit libre et ouvert. Donc il y a des efforts à faire pour arriver justement à enlever ses soucis, évacuer ses soucis, évacuer ses, une agitation intérieure qui peut avoir plusieurs motifs, pour éviter aussi de se laisser distraire par des bagatelles. Donc il faut essayer de se mettre en condition pour pouvoir entendre cette voix de Dieu. Alors maintenant aussi, quand on dit entendre Dieu, eh bien certainement que le bon Dieu, quand il nous parle, il nous dit des choses très agréables. Parce que le bon Dieu nous aime et qu'il veut notre bonheur, il nous dit des choses agréables. Mais aussi, pour la même raison, parce qu'il nous aime, il nous dit aussi parfois des choses qui nous plaisent moins, parce qu'il y a peut-être des petites choses dans notre vie qui seront à rectifier. Et donc, il y a un danger, c'est d'avoir une oreille sélective, c'est-à-dire écouter le bon Dieu que quand il nous dit des choses doudou, donc qui nous font du bien. Et ensuite, après, quand il nous pique un peu pour nous secouer, eh bien, à ce moment-là, on peut avoir tendance à nous rétracter. Donc, il faut demander au bon Dieu d'avoir cette ouverture d'âme, d'accueillir, en fait, tout ce que le bon Dieu pourra nous dire pour notre bien. Aussi bien les choses agréables que des choses qui peuvent peut-être nous faire un peu mal, mais pour notre bien. Ensuite, entendre la voix de Dieu, ça ne veut pas dire sentir Dieu. Vous voyez, on vit dans un monde qui est très très sensible, très tourné sur tout ce qui est sensation, par la télévision, par les médias, par le monde environnant. Et donc l'homme moderne est très sensible et à cause de ça, on voudrait aussi pouvoir sentir Dieu. Alors c'est vrai que le bon Dieu se manifeste souvent, il se met à notre niveau, donc il se manifeste aussi à nous de façon sensible, mais pas uniquement. Et donc là, il y aurait un écueil, ce serait uniquement de vouloir rechercher, en fait, au cours d'une retraite, des sensations qui nous fassent encore du bien. Mais et donc il y a un danger de gourmandise spirituelle. Donc il faut se dire que entendre la voix de Dieu, ça ne veut pas dire avant tout sentir Dieu. Ça veut dire simplement peut-être prendre plus conscience de certaines vérités que le bon Dieu nous a révélées pour pouvoir chercher ensuite à en vivre dans la vie de tous les jours. Donc ne confondons jamais les consolations de Dieu avec le Dieu des consolations. Le bon Dieu souvent nous console. Enfin, normalement, je pense qu'une âme, une âme généreuse, régulièrement, le bon Dieu nous console. Mais ensuite, après, souvent, d'ailleurs, quand elle est très généreuse, qu'elle est suffisamment avancée dans la vie intérieure, le bon Dieu console moins, parce qu'il sait très bien que l'âme peut avancer sans cela, et donc acquiert plus de mérite. Mais ces consolations ne sont pas l'essentiel de la vie spirituelle. Ce sont des éléments qui sont là pour nous encourager à avancer, vous voyez. Mais ensuite, un peu comme Saint-Pierre, quand il était au Mont Tabor, il disait qu'il est doux pour nous d'être ici, mais ensuite, ben, il a dû redescendre dans la vallée. Donc qu'il y ait des petits moments dans notre vie où on est sur le Mont Tabor, eh bien c'est vrai, seul bon Dieu le permet, mais ensuite, le gros de notre vie se passe plus dans la vallée que sur le Mont Tabor. Donc, entendre la voix de Dieu ne veut pas dire avant tout sentir Dieu. Ensuite, entendre la voix de Dieu, ça ne veut pas dire non plus même comprendre Dieu. Ah, je voudrais comprendre. Ben, Dieu, par définition, vous voyez, est incompréhensible. Donc, si à la fin de la retraite, au contraire, vous avez la conscience que le bon Dieu est infiniment plus grand que vous le pensiez même au début de la retraite, ce sera le signe que le bon Dieu, peut-être, vous aura parlé. Parce que le bon Dieu est infiniment au-dessus de nous. Et c'est ça qui est magnifique dans la religion, c'est que Dieu qui est infiniment au-dessus de nous est en même temps aussi en nous, et le meilleur de notre ami, de nos amis. Donc un Dieu si grand, soit en même temps si proche, c'est ça qui est magnifique dans la religion. Mais n'oublions pas cette grandeur de Dieu. Et donc en raison de cette grandeur de Dieu, là encore aussi, ne soyons pas surpris eh bien, qu'il y a parfois un décalage de niveau. Vous voyez, quand le bon Dieu se met à notre niveau, on le comprend, mais quand il reste au sien, on a plus de mal à le comprendre. Et on voit que vis-à-vis des apôtres, par exemple, notre Seigneur, à certains moments, s'est mis vraiment à leur niveau, et à d'autres moments, et très souvent dans l'Évangile, vous voyez ça, il y a des quiproquos parce qu'ils ne sont pas sur la même longueur d'onde, parce que Dieu est Dieu. Donc il faut surtout apprendre à porter sur Dieu des regards de foi, d'espérance, de charité, malgré les périodes d'obscurité que l'on rencontrera dans une retraite, comme dans toute vie intérieure. Donc le but de cette retraite, c'est de vous reposer en Dieu, Vous reposez en Dieu, ça veut dire entendre la voix de Dieu. Entendre la voix de Dieu, ça veut dire accepter ce que le bon Dieu vous dira et qui vous fera du bien et qui vous fera plaisir. Mais c'est même aussi accepter ce que le bon Dieu vous dira et qui vous fera moins plaisir, mais toujours pour votre bien. Donc entendre la voix de Dieu, ce n'est pas sentir Dieu, ni même comprendre Dieu, mais c'est plutôt développer une vie de foi, d'espérance et de charité. Alors quels sont les obstacles à ce repos en Dieu ? Parmi les obstacles possibles, il y a parfois une cause physique. C'est tout à fait classique, si vous voulez, hein, une explication psychologique, que quand on est très fatigué et qu'on commence à se reposer, c'est là que les nerfs lâchent et que du coup on a le coup de pompe. Donc il faut le savoir. Donc il y a des gens qui en retraite sont parfois plus fatigués qu'à d'autres moments pour cette raison. Donc n'hésitez pas en tout cas à profiter de cette retraite pour bien vous reposer en dehors des instructions et des moments de prière. Alors l'obstacle au désir, ça peut être soit l'orgueil. Donc se croire déjà parfait, disant non, moi ça va, tout va bien. Donc si on est rempli de nous-mêmes, il n'y a plus de place pour le bon Dieu, ou pas une place suffisante en tout cas. Ou alors aussi, c'est aussi triste, ça arrive aussi, c'est le découragement. C'est de dire, ouais, ben moi j'ai tellement essayé, c'est déjà ma 10e retraite, ou c'est déjà la 15e fois ou la 20e fois que je cherche à me reprendre dans ma vie spirituelle, mais je vois que j'arrive pas. Et donc il y a le découragement qui menace les âmes. Et qui empêche, qui nous empêche d'être une âme de désir. Donc, pour être une âme de désir, faut essayer d'avoir un regard neuf sur les choses de Dieu. Donc, il s'agit pas forcément, vous voyez, de se dire pendant cette retraite, je vais apprendre des tas de choses nouvelles. Peut-être que vous apprendrez des choses nouvelles. Mais il faut surtout avoir un regard neuf sur les choses de Dieu. Donc, les entendre comme si on les entendait pour la première fois. Et c'est ce qui nous permet en ce moment-là de nous enrichir vraiment. Si on dit ouais, ça, déjà, je connais. Eh bien, on perdra un peu notre temps. Donc, faut retrouver cette grâce première. Dans le livre de l'Apocalypse, Dieu dit à l'ange de l'église d'Éphèse, « J'ai contre toi que tu t'es relâché de ta charité première. Repose-toi et reviens à tes premières œuvres. » Tu t'es relâché de ta charité première. Donc, il y a toujours ce risque dans la vie de nous relâcher au fil du temps. Donc, il faut essayer de revenir à nos premières œuvres. Apocalypse chapitre 2, versets 4 à 5. Et c'est le même conseil que saint Paul donne à Timothée. Ravive le don de Dieu qui est en toi. Deuxième à Timothée, chapitre 1, verset 6. Et puis enfin, dernière disposition, la patience. Donc on est un petit peu aujourd'hui, c'est la mentalité fast-food, le prédigéré. Donc dès que c'est un petit peu long, ça nous fatigue tout de suite, eh bien, faut savoir que pour avancer dans la vie spirituelle, il faut de la patience. Saint Thérèse d'Avila dit que la sainteté est une longue patience. Donc on aimerait pouvoir arriver à Dieu d'un coup d'aile, mais c'est pas le plan de Dieu. Donc faut savoir que le bon Dieu nous purifie progressivement, et c'est comme ça qu'on avance dans la vie. Et puis également, il se cache régulièrement pour éprouver notre fidélité. Donc ça fait partie des lois de l'amour. Donc, pour tester en quelque sorte notre degré d'amour, eh bien, à un certain moment, le bon Dieu se cache. Regardez, par exemple, les femmes les plus généreuses dans l'évangile, que ce soit la cananéenne ou encore Sainte Marie-Madeleine, eh bien, le bon Dieu n'a pas répondu tout de suite à leur attente. La cananéenne, le bon Dieu, eh bien, il fait comme s'il n'entendait pas. Et donc, elle insiste, elle insiste, elle insiste, et puis à force, eh bien, elle dit, oh, ta foi est grande. Qu'il soit fait selon ta demande, vous voyez. Et puis Sainte Marie-Madeleine, c'est pareil, au moment où notre Seigneur était mort, elle pleurait sur le tombeau de notre Seigneur, et bien elle est restée au tombeau, alors que le tombeau était vide. On peut dire, le tombeau est vide, on rentre à la maison. Ben non, elle est restée là, et insistante, et donc le bon Dieu lui a apparu. Donc le bon Dieu aime, vous voyez, les âmes qui le supplient avec ardeur, avec confiance. Il faut essayer d'avoir cette attitude du chien qui attend le retour de son maître. Donc il n'est pas tendu, il n'est pas crispé, mais il est aux aguets. Et dès que le maître arrive, il saute de joie. Alors maintenant, là où il faut faire attention, c'est qu'il y a des âmes qui sont un peu inquiètes par nature, et bien ont tendance parfois à se crisper un petit peu, à se tendre. Il faut que je me mette en présence de Dieu, ah, j'y arrive pas. Et donc elles se tendent intérieurement. Et c'est pas exactement ce qu'il faut faire. Et pour ça, je vais vous prendre encore une image, si vous voulez. C'était à Écône, il y avait un vieux prêtre qui est mort en 83, qui s'appelait le père Bariel, et qui était directeur spirituel. Moi, j'étais pas rentré au séminaire, donc je suis rentré cette année-là. et donc ce qu'on m'a raconté. Donc il était le père spirituel d'une bonne partie des séminaristes. Et puis un jour, donc un séministe, donc il va le voir, puis il demande conseil. Ah tiens, je crois que ça va pas très bien aujourd'hui. Ah bon, qu'est-ce qui va pas? Alors en ce moment-là, il dit, ben voilà, moi mon père, dans la prière, j'arrive pas à me concentrer. Alors réponse du père Bariel, imbécile, quand tu vas voir ta mère, est-ce que tu cherches à te concentrer? Ah bon, très bien, d'accord. Donc pensez à ça, vous voyez, quand vous avez du mal à vous concentrer, pensez à cette histoire. Alors ensuite, le thème de la retraite, c'est la vie chrétienne. Donc c'est à dire que c'est un thème en fait qui est large, qui embrasse en quelque sorte les éléments d'une bonne vie chrétienne. Donc on va vous parler de Dieu, de sa vie en nous, de notre vie en lui, des moyens que le bon Dieu nous a donnés pour nous unir à lui, donc de l'incarnation, de la passion, des sacrements, des vertus chrétiennes. Donc de tout ce qu'un chrétien doit savoir pour répondre pleinement à ce pourquoi il a été créé. Donc les instructions seront une partie de la retraite, vous aurez 4 instructions par jour, mais tout le reste compte. Donc les exercices spirituels, la messe, le chapelet, la prière du matin et du soir, et même aussi, comme je l'ai dit, les temps de silence. Voilà. Et puis les effets normalement attendus, si vous faites bien cette retraite, donc je vous promets, enfin, je pense, j'espère, voilà, ne pas trop m'avancer, qu'à la fin de la retraite, eh bien normalement, c'est ce qu'on voit d'habitude, on voit des âmes qui sont paisibles, sereines, abandonnées à la providence. Alors c'est vrai aussi qu'en nous rapprochant de Dieu, on perçoit davantage parfois le chemin qui nous reste à parcourir. Mais normalement, comme le bon Dieu nous aime, eh bien il nous donne en même temps, qu'il nous montre le chemin, il nous donne confiance et donc on repart d'un bon pied. Alors c'est vrai aussi que c'est tout à fait normal qu'en prenant conscience des chemins à parcourir, qu'on regrette bien sûr... dans notre vie passée, ce qui a pu déplaire au bon Dieu. Donc c'est pour ça que dans une retraite, il y a aussi une confession. Donc il y aura spécialement, vous pouvez vous confesser dès le début de la retraite, mais il y aura une instruction sur la confession. C'est peut-être préférable d'attendre cette confession, cette instruction, pour vous confesser. Et là, après, vous pourrez vous confesser donc au prêtre que vous souhaitez. Et donc soit à un moment que vous préférez, si vous êtes prêtre, ou soit à un moment plus précis, et en ce moment-là, on vous donnera un jour où vous pourrez plus facilement vous confesser, où les prêtres se libéreront davantage pour ses confessions, donc vers le milieu de la retraite. Voilà. Alors, dernier conseil, bien faites la retraite avec la Sainte Vierge. Donc, c'est pas simplement, si je dis ça, c'est pas uniquement le petit mot de conclusion, parce qu'on termine par la Sainte Vierge, ça fait bien. Mais c'est très important pour tout le monde, et spécialement pour des femmes, puisque la Sainte Vierge est vraiment l'idéal de la femme chrétienne, à la fois en tant qu'épouse, en tant que mère... en tant que femme. Donc faites-lui confiance et soyez assurés qu'elle vous rapprochera de son divin fils. Donc portez régulièrement des regards affectueux vers la Sainte Vierge, je suis sûr qu'elle vous aidera. Alors nous allons nous rendre maintenant à la chapelle pour la prière du soir. Donc regardez bien le programme qui est affiché donc à la sortie pour demain matin. Je crois que si j'ai bien regardé, que donc ça fait un lever à 6h30. À 7h15, il y aura l'office des Laudes, qui sera suivi d'une demi-heure d'oraison, donc une méditation qui sera faite en partie à voix haute par un prêtre. Donc c'est pour vous aider simplement. Alors celles qui ont l'habitude de méditer sont parfois gênées parce que le prêtre dit ben, « Juste maintenant, ça y est, j'avais une lumière extraordinaire et puis paf, il faut encore qu'il cause. » Bon, c'est comme ça. Donc il y a celles qui préfèrent qu'on parle, celles qui préfèrent qu'on se taise. Donc le matin on parle et après on se tait. Donc nous nous rendons à la chapelle pour une prière du soir. Le but d'une retraite, c'est de nous rapprocher de Dieu. L'instruction de ce matin, donc, portait sur Dieu et les perfections divines. Alors, bien que nous ne voyons pas Dieu, on peut dire que ce que l'on sait de lui nous attire. Quand on nous parle du bon Dieu, j'espère que ça nous fait du bien et que ça nous attire. Et si le fait qu'on nous parle de Dieu nous fait du bien, c'est parce que on sait que Dieu est infiniment bon, qu'il est infiniment aimable, qu'il possède toutes les perfections, qu'il est la pureté, la sainteté, la douceur, la puissance, la force, la charité. Et s'il est vrai qu'une telle sainteté nous attire, parce qu'on est attiré par le beau, on est attiré par le bien, En même temps aussi, cette sainteté peut parfois nous troubler. Alors pourquoi cette sainteté nous trouble ? Eh bien, c'est parce qu'en revenant sur nous-mêmes, nous constatons bien que nous ne sommes pas toujours à la hauteur de ce que le bon Dieu attendrait de nous. Nous voyons bien nos limites, nous voyons nos faiblesses, nos misères. Et donc, ce retour sur nous-mêmes provoque en nous, et c'est normal, un certain trouble. Alors, la plupart d'entre vous se confessent régulièrement, mais peut-être que certaines confessions aussi peuvent être un peu routinières, un petit peu machinales. Alors, le but dans une retraite, ce n'est pas le tout d'une retraite, la confession, hein, mais c'est un moment quand même important. Donc, c'est l'occasion de susciter dans notre âme une plus grande contrition par rapport à nos péchés passés. Donc, l'essentiel de la confession résidant toujours dans la contrition. Ça, c'est très important. Vous aurez une instruction sur la confession. Le plus important dans la confession, ce n'est pas de tout dire. Le plus important, c'est de regretter profondément. Il ne s'agit pas forcément d'un regret senti, mais d'une volonté, en tout cas, de s'amender et de progresser. Donc, c'est l'essentiel de la confession. L'élément principal consiste dans le regret. Et donc, quand on fait des confessions parfois à la sauvette, on cherche toujours, surtout, à ne rien oublier, mais on ne cherche pas forcément toujours à être suffisamment contrit. Alors, dans la mesure où, dans une retraite, on se rapproche du bon Dieu, eh bien, en se rapprochant du bon Dieu, on se rend peut-être mieux compte de la peine qu'on a pu lui faire dans telle ou telle circonstance. Et donc, il s'agit pour nous de susciter dans notre âme ce regret. Donc, pas un regret stérile non plus, qui nous conduise à psychoter, c'est pas non plus le but, hein, mais un regret qui nous conduise à mieux aimer. Vous voyez, Sainte-Marie-Madeleine, elle a profondément regretté ses fautes passées, mais ses regrets ne l'ont pas conduit à se replier sur elle-même. Elle a conduit, au contraire, à se rapprocher toujours davantage de notre Seigneur. Donc, il va falloir, pendant cette retraite, il serait bon, pendant cette retraite, de susciter dans votre âme une plus grande contrition, et aussi peut-être une plus grande reconnaissance pour les grâces reçues de Dieu. Soit parce qu'hélas, à certains moments dans votre vie, vous êtes tombé très bas, ou soit aussi parce que le bon Dieu vous a empêché de tomber. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait qu'elle devait énormément au bon Dieu. Donc, on doit beaucoup à Dieu lorsque, hélas, on est tombé et qu'on est revenu, mais on doit aussi énormément à Dieu quand on n'est pas tombé. Parce que par nature, étant faible, si le bon Dieu nous avait retenus, peut-être dans telle ou telle circonstance de notre vie, nous serions tombés aussi bien bas. Donc, occasion de regretter nos fautes, de manifester notre reconnaissance pour les grâces reçues du bon Dieu, et puis pour prendre des résolutions fermes pour éviter de retomber à l'avenir. Donc, vous aurez une instruction, je vous l'ai dit, sur la confession, mais dès maintenant, je vous dis, puisque l'instruction que je vais porter cet après-midi sur le péché, spécialement, quand vous faites un examen de conscience, le plus important d'essayer de discerner, ce sont les péchés les plus volontaires et les péchés les plus fréquents. Vous voyez, ce sont les péchés qui, finalement, endommagent davantage votre âme. Ce qui endommage davantage votre âme, ce sont les fautes les plus volontaires, c'est-à-dire telle remarque piquante qu'on a dit sciemment, vous voyez, ça c'est... Ou alors aussi les péchés les plus fréquents, parce que on s'enlise et on n'arrive pas à s'en sortir, on sort toujours de ses gonds, enfin trop vite, ou je sais pas quoi, donc ce sont les fautes qui peuvent endommager davantage notre âme. Et puis aussi, ce qu'il est important de reconnaître, c'est de réfléchir parfois, peut-être, au cours d'une retraite aussi, à la source de nos chutes, dans quelles circonstances on tombe, vous voyez. Donc c'est important de remonter aux causes. Donc, par exemple, je m'accuse d'être gourmand, mais je constate en fait que je suis surtout gourmand quand ça va pas dans ma vie. Donc en ce moment-là, mon remède, c'est le frigo. Bon, j'ouvre mon frigo et je m'en mets plein le pansement. Donc il faut essayer de savoir peut-être pourquoi ça va pas, afin d'éviter ces crises de boulimie, vous voyez. Donc c'est important de remonter aux causes. Donc dans cette analyse, donc éviter les regrets inutiles qui vont vous conduire au repli sur vous-même. Donc ne détachez jamais la vue de votre misère de la miséricorde de Dieu. Vous pouvez constater que dans les prières au bas de l'autel, donc les fidèles à un moment donné disent dans les prières au bas de l'autel « Quare conturbas me ?» Ça veut dire « Pourquoi me troubles-tu ?» Et le prêtre à ce moment-là dit « Spera in Deo », donc « Espère en Dieu ». Donc Je suis troublé en moi, dit saint Augustin, je suis apaisé en Dieu. Je suis toujours troublé lorsque je me replie sur moi-même. Et au contraire, je suis apaisé lorsque je sors de moi-même pour me tourner vers Dieu. Donc le remède au trouble de l'âme, c'est un élan vers Dieu. Donc je peux, pour arriver à moins, donc moins psychoter, le grand remède, c'est le fait de se tourner plus régulièrement vers le bon Dieu. Ensuite aussi, donc cet après-midi, je vais vous parler du péché, mais c'est vrai, et c'est très important de le dire, qu'il ne faut pas réduire votre vie spirituelle à un examen de conscience perpétuelle. Il y a des âmes qui sont très facilement troublées, et donc lorsqu'elles sont dans le silence et qu'elles pensent à Dieu, ben tout de suite elles reviennent sur elles-mêmes pour voir ce qui ne va pas, et donc du matin au soir elles font un examen de conscience perpétuel. Alors du coup elles vivent dans le négatif finalement presque du matin au soir. Donc il ne faut pas réduire la vie spirituelle c'est un examen de conscience perpétuel, et même dans l'examen de conscience il ne faut pas voir aussi que le négatif mais aussi le positif. Donc quand on se confesse, on se confesse pas de ce qui va, on se confesse de ce qui va pas. Mais dans l'examen de conscience que l'on fait, c'est très encourageant de regarder aussi ce qui a été, voyez, parce que c'est le positif qui vous redonne confiance. Le négatif, par définition, décourage, et le positif entraîne. Donc Saint François de Sales, qui était un fin psychologue, savait très bien cela, et il disait que c'était très important de se considérer pas uniquement comme pécheur par rapport à Dieu, mais aussi comme enfant de Dieu. Nous sommes essentiellement enfants de Dieu. Et donc c'est le sens de l'épître de ce matin. Dans l'épître de ce matin, eh bien saint Paul dit à ses fidèles que l'esprit de crainte a cédé à l'esprit d'amour. Et donc maintenant, nous avons tous cette possibilité de dire cette belle prière du Notre Père. Nous sommes enfants. Donc la prière par excellence du catholique, c'est pas « Notre juge qui êtes aux cieux, vous devant qui je vais paraître peut-être ce soir ». Vous voyez, c'est pas la prière du catholique ça. Enfin, c'est pas ce que j'ai appris quand j'étais enfant. On m'a appris « Notre Père qui êtes aux cieux ». Donc je suis avant tout enfant. Alors parfois enfant capricieux, enfant indocile, enfant faible, enfant, mais enfant. Donc je suis avant tout enfant. Donc c'est très important, et là, d'avoir ce regard de foi sur ma nature d'enfant de Dieu. Depuis mon baptême, je suis enfant. La Sainte Trinité habite dans mon âme. Et ça, c'est du positif. Donc c'est aussi très important, donc, pour la vie spirituelle, de regarder aussi le positif. Et c'est pour ça que pendant la retraite, on vous parlera aussi de cet aspect-là de votre vie spirituelle. Mais normalement, dans une vie équilibrée, vous devez avoir ce regard juste sur vos faiblesses, mais un regard juste aussi sur les richesses merveilleuses qui vous habitent. Vous voyez, le fait d'avoir la Sainte Vierge pour mère, par exemple, c'est une très grande consolation. De savoir que c'est la mère de notre Seigneur qui est notre propre mère, c'est une très grande consolation. Donc il faut essayer de vivre de ces réalités positives, et pas uniquement des réalités négatives. Alors maintenant, puisque cet après-midi, ben, il s'agit de cet aspect plus négatif, pour mieux discerner ce qui est agréable à Dieu dans votre vie, ou ce qui lui est désagréable, il faut vous rappeler que Marie et Ève se cachent en vous. Donc en toute femme se cachent Marie et Ève. Donc Ève, c'est celle qui cherche à séduire, c'est celle qui cherche à jouir égoïstement de certains biens. Et Marie, au contraire, c'est celle qui cherche à s'effacer pour vivre plus près de Dieu et pour devenir charité. Un synonyme de sainteté, c'est charité. Et donc il est intéressant de prendre un peu du recul par rapport à sa vie et se dire, tiens, de quelle manière Ève a tendance à apparaître encore en moi aujourd'hui dans ma vie de tous les jours, quoi. Et pour ça, bien sûr que les fautes que vous pouvez commettre sont différentes en fonction de votre âge et de votre état de vie. Donc vous êtes âgé entre 18 et 82 ans, donc on ne met pas forcément les mêmes fautes à 18 ans et à 82 ans, vous voyez. Donc, et suivant ensuite que vous êtes marié ou célibataire, que vous avez des enfants ou que vous n'avez pas d'enfants, que vous êtes converti depuis peu de temps ou sur la voie de la conversion, ou au contraire catholique fervente, là encore, les fautes peuvent être différentes. Suivant que vous soyez dans une famille unie ou désunie, il y a encore d'autres cas de figure. Donc là, c'est à essayer à vous de voir, pour votre examen de conscience, d'essayer d'adapter votre examen de conscience à votre état particulier. Donc c'est aussi, parfois, dans les confessions qu'on fait, on a l'habitude, on se confesse, surtout dans ses rapports par rapport à Dieu, on se voit par rapport à Dieu, et dans le prochain, on peut parfois oublier une partie du prochain, donc il faudrait essayer d'embrasser la totalité de vos devoirs. Donc par rapport à Dieu, tout d'abord, quels sont les péchés assez classique, malheureusement. C'est des prières qui sont routinières, machinales, donc pas assez de recueillement. On prend pas assez le temps de se mettre en présence de Dieu. Donc le fait d'avoir des prières routinières et machinales, malheureusement, nous en aurons toujours, vous voyez. Même les grands religieux, même les prêtres, enfin, ont des distractions dans leurs prières, hélas. Mais là où nous devons faire attention, c'est de faire un effort pour nous mettre en présence de Dieu. Cet effort-là est capital. C'est un effort de volonté, donc la vertu est dans la volonté, comme le vice est aussi dans la volonté. Donc il y a une manifestation de volonté droite au début de la prière. Si on commence par dire « Allez les enfants, faut dire le chapelet, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant », hop, c'est reparti pour un tour, vous voyez. Il faudrait essayer peut-être, pendant une minute, essayer de se calmer, de bien se mettre en présence de Dieu. Donc si on se met pas en présence de Dieu, on sera, faut pas être surpris d'être distrait. Donc il faut essayer de se dire à qui je m'adresse, qui je suis, à qui je m'adresse, pour que notre prière soit plus profonde. Ensuite, après, ce qui aussi peut alimenter, ce qui alimente en général nos rapports avec Dieu, des rapports plus intimes avec Dieu, c'est l'oraison, la méditation ou les bonnes lectures. Donc essayez de voir, au cours de la retraite, si vous prenez un petit peu de temps dans la journée pour méditer un peu ou pour lire. Et puis pour certaines personnes, le défaut va être, en l'occurrence, un certain excès dans le sens des dévotionnettes. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui sont très attachées à certaines dévotions. Donc elles multiplient neuvaines et neuvaines, le rosaire, tout ça. Mais tout ça, c'est fait un petit peu à la va-vite. Et alors, elles lisent une neuvaine, elles trouvent qu'elle est bien. Après, une autre neuvaine, elles trouvent qu'elle est bien. Alors après, elles entassent des neuvaines. Et puis, elles n'ont pas le temps de faire la moitié de ce qu'elles devraient faire, peut-être, parce qu'elles sont trop attachées à leur dévotionnette. Donc le fait d'avoir un saint préféré, une sainte préférée, ou même quelques saints préférés, c'est tout à fait permis. Et donc le fait ensuite d'aimer dire certaines neuvaines, c'est tout à fait permis aussi. Mais il faut éviter d'être esclave ensuite de telle dévotion, même si on peut avoir ses dévotions préférées, au point d'arriver à devenir, si vous voulez, à dire toutes ses prières d'une façon beaucoup trop mécanique. Donc le but, c'est d'arriver à une union plus profonde avec Dieu. Donc il ne faut pas confondre les dévotions et la dévotion. Vous voyez, les dévotions sont au service de la dévotion. Et la dévotion, c'est une promptitude au service de Dieu. Donc une promptitude à rendre à Dieu le culte qu'on lui doit. Donc les dévotions sont là pour vous aider à cela. Et ensuite, après, si vous êtes trop esclave de toutes vos prières, eh bien, vous risquez, en ce moment-là, de prendre la fin pour le moyen, voyez, et le moyen pour la fin. Donc, parfois, il serait préférable, pour certaines âmes, de dire un chapelet de moins, et peut-être de mieux le dire, ou d'être un petit peu plus présente auprès des personnes qui vous entourent. Voilà. Ensuite, par rapport à Dieu aussi, il y a souvent, malheureusement, dans notre vie, des manques de confiance. C'est-à-dire que certaines âmes qui sont un peu craintives voient toujours à travers Dieu plus un juge qu'un père, comme je le disais tout à l'heure, et du coup, ça suscite en elles un manque de confiance. Et Dieu, ça lui fait de la peine qu'on lui manque de confiance. Je pense que toutes les mamans qui sont ici aiment que leurs enfants leur fassent confiance, j'espère. Et si vos enfants ne vous font pas confiance, eh bien je pense que vous en êtes un petit peu attristés, vous voyez. Eh bien Dieu, par rapport à nous, c'est la même chose. Donc Dieu aime qu'on lui fasse confiance. Et on peut dire que toute la vie terrestre est tissé d'épreuves, les plus âgés parmi vous, je pense, seront d'accord avec moi là-dessus. Donc de joie aussi, de joie et de peine, et donc nous devons nous détacher petit à petit de nous-mêmes, et donc la vie est une école d'abandon à la providence. Et donc pour ça, pour arriver à l'abandon à la providence, c'est la confiance. C'est la confiance qui nous invite à nous abandonner. Nous, on aimerait bien avoir tout clé en main, savoir où on en est, qu'est-ce que le bon Dieu pense de moi, quel chemin il me reste encore à parcourir. Et donc, le bon Dieu souvent se cache, alors du coup, on est un peu perdu. Donc, on doit lui faire confiance. Dans les tunnels, il faut faire confiance à Dieu. Et dans la vie, il y a toujours des tunnels à traverser, quels que soient nos âges. Donc, péché par rapport à Dieu, ensuite péché par rapport au prochain. Donc le prochain, le plus proche, c'est d'abord le conjoint ou les enfants pour les gens qui sont mariés. Donc qu'est-ce qui permet une certaine unité avec le conjoint? Donc il y a beaucoup de familles, malheureusement, où il y a un manque d'harmonie. Donc il y a des gens qui sont séparés même, bon, et remariés parfois. Bon, après, chaque cas est différent. Mais même chez les gens qui sont ensemble, on peut être ensemble, si vous voulez, extérieurement, donc pour partager le lit et le couvert, mais ne pas être ensemble de cœur, vous voyez. Et donc, je pense que une retraite, c'est l'occasion de revoir par rapport à Dieu, de revoir l'idéal que vous avez eu lorsque vous êtes marié, et voir de quelle manière, aujourd'hui, ranimer cet idéal. Donc, rappelez-vous toujours le secret d'un bel amour. Pour arriver à bien s'aimer entre époux, le premier point, c'est de se comprendre, qui est déjà pas un point toujours évident, hein, entre hommes et femmes. J'en parlerai un petit peu peut-être tout à l'heure. Donc, se comprendre, ensuite s'adapter. Donc, il faut toujours tenir compte de l'autre et donc prendre la personne eh bien telle qu'elle est. Donc, il faut accepter les gens comme ils sont. Ensuite, se faire mutuellement plaisir, c'est très important. Et toute la vie, hein, se faire mutuellement plaisir. L'aliment de l'amour, c'est cela, vous voyez. Donc, il faut comprendre l'autre, toujours s'adapter. Et donc, ça exige des renoncements, hein, pour être capable de comprendre l'autre. Eh bien, il y a des efforts à faire. Pour s'adapter, il y a des efforts à faire. Pour se faire mutuellement plaisir, il y a encore des efforts à faire. Et puis ensuite, se donner. Donc, il faut que ça aille dans les deux sens. Donc, bien sûr que la femme dira souvent, « Ouais, mais moi, je me donne, et justement, lui, hein. » Peut-être, mais quand je vois les hommes, je leur dis la même chose aussi, hein, rassurez-vous. Donc, là, c'est à des dames que je parle, donc je leur vous dis ce que je pense. Ensuite, dans les péchés par rapport au prochain, il y a des problèmes avec certains enfants, ou avec la belle-mère, ou avec la belle-fille, ou avec le gendre, ou avec un peu tout le monde. Si c'est avec un peu tout le monde, à mon avis, vous pouvez vous remettre en question, il y a peut-être un petit problème de votre part, à mon avis. Hein. Ensuite, il y a les conversations de bureau, bon, qui sont pas toujours faciles non plus. L'esprit d'indépendance, l'insoumission, les revendications perpétuelles, les plaintes continuelles, faut voir. La curiosité... Les péchés, on dit que les femmes sont curieuses. Il y a peut-être un petit fond de vrai. Les péchés de la langue. Saint Jacques dit, celui qui ne pêche pas par la langue est un homme parfait. Il n'y a pas beaucoup d'hommes parfaits, malheureusement. Donc les médisances, les calomnies, la rancune. La rancune aussi, c'est quelque chose de terrible. Vous voyez. Saint Paul invite les fidèles à ne pas se coucher sur leur colère. Et c'est un très bon conseil. Donc là, ça dépend du tempérament. Il y en a qui sont soupolés, mais en étant soupolés, il y a un avantage, c'est qu'en général, après, une fois qu'on s'est calmé, on a dit ce qu'on avait à dire, et après, on repart d'un bon pied. Parce qu'il y a des gens rancuniers qui ressassent sans cesse, et c'est pas forcément mieux. Donc la rancune peut faire beaucoup de mal, parce que ça peut pourrir une âme. Parce qu'il y a des âmes qui n'avancent pas spirituellement, elles se demandent pourquoi, et parfois, ça peut être, par exemple, le refus de pardonner. Le refus de pardonner à telle personne. Et ça arrive, hein, malheureusement. Non, j'en ai trop reçu, si vous saviez, monsieur l'abbé. Oui, mais le bon Dieu nous a donné cette loi du pardon. Hein. Dans le Notre Père, c'est une prière qui est très courte. Le bon Dieu nous connaît. C'est une prière qui est vraiment courte. Mais dans cette prière, il y a tout. Moi, il y a le principal. Et dans cette prière, il y a « Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Donc nous savons que nous serons traités par le bon Dieu, comme nous-mêmes nous aurons traité notre prochain. Donc je dis pas que le pardon soit facile, hein, parce que c'est vrai que certaines personnes ont beaucoup enduré de souffrances, et donc, mais cette loi est capitale pour la vie spirituelle, pour le ciel, même pour mériter le ciel. Ce qui doit nous rassurer à la fin de notre vie, c'est que si on sait que même en ayant malheureusement beaucoup souffert, on a su pardonner, eh bien là, au moment de mourir, on a cette confiance, vous voyez, parce qu'on sait que le bon Dieu nous traitera comme on a traité les autres. Mais si on a refusé de pardonner à une seule personne, même si on était très gentil avec les autres, mais si on a refusé de pardonner à une seule personne, alors à ce moment-là, on peut être inquiet au moment de passer devant le bon Dieu. Ensuite, le mensonge. Là, il y a des gens qui sont comme ça, qui vous disent « Ah oui, j'ai menti, mais je ne peux pas faire autrement. » Ah, facile. Eh bien, non. Il y a toujours un moyen. Alors maintenant, c'est vrai que toute vérité n'est pas bonne à dire, c'est sûr. Mais on ne doit pas mentir, donc il faut apprendre à... Oui, à se taire, oui, c'est possible. C'est souvent la meilleure solution. Ou sinon, à dire les choses donc indirectement, de telle sorte qu'on ne mente pas, quoi. Voilà. Ouais. Ensuite, l'impatience, donc la colère. Le refus du dû conjugal, donc dans les rapports entre conjoints. Qui ont entré à la génération. À un certain âge, en général, les femmes ont moins d'attrait et les hommes sont différents. Donc là, il y a encore souvent de grosses difficultés dans les ménages à cause de ça. Et donc, faut voir comment régler aussi ce problème. Donc les contraceptifs, bien sûr, l'avortement, tout cela sont condamnés par le bon Dieu. Ou des attitudes équivoques que l'on peut avoir, ou les manques de réserve qu'on peut avoir vis-à-vis de certains hommes pour les femmes, donc c'est aussi à considérer, ou les fréquentations qui ne seront pas bonnes. Ensuite, après, il y a le manque de vigilance dans l'éducation des enfants. Donc c'est pas tout de mettre des enfants au monde, mais après, il faut bien les éduquer. Donc le devoir des parents, c'est de veiller à leur vie de prière, à leur fréquentation. Par exemple, il y a beaucoup d'enfants que je vois qui ne font pas leur prière du matin. Donc les prières du soir en famille, vous voyez, c'est classique. Prière du matin, il y a beaucoup d'enfants qui ne font pas la prière du matin. Et à mon avis, je pense que la maman, elle a un devoir de ce côté-là. De vérifier au moins, de faire en sorte que leurs enfants fassent bien leur prière du matin. C'est parfois plus difficile parce qu'on ne se lève pas forcément toujours à la même heure. Le soir, c'est peut-être plus facile, mais je pense que c'est quand même, en tout cas, un point aussi à voir. Donc la fréquentation de vos enfants, la question de la télévision, le choix de l'école, bien sûr, les occupations pendant les vacances, donc tout ça, c'est à voir. Alors après, ça dépend aussi de l'âge des enfants, bien sûr. Et puis, comme disait Mgr Chevreau, dans ce qu'on entendait à midi, il y a également tous les péchés, malheureusement, par omission, donc vis-à-vis de nos proches, par exemple, pour lesquels on pourrait manquer d'affection ou le manque de soutien. Donc il ne s'agit pas ici d'aggraver notre situation, enfin notre cas en quelque sorte, mais de voir les choses telles qu'elles sont. Donc essayez toujours dans l'examen de conscience de se voir comme le bon Dieu nous voit, et comme on se verra en fait de fait lorsqu'on paraîtra devant lui. Vous voyez. Si on était capable régulièrement au cours d'une vie de se voir comme Dieu nous voit, eh bien je pense qu'au moment du grand passage, parce que finalement l'événement important de notre vie c'est le grand passage, parce qu'on sera jugé au moment du grand passage, eh bien ce grand passage se fera dans les meilleures conditions. Alors que si au contraire on a vécu dans l'illusion pendant une grande partie de notre vie, et que volontairement on a dit non ça, je veux pas voir, eh bien quand on paraîtra devant le bon Dieu, en ce moment-là, ce sera le réveil risque d'être un peu douloureux. Vous voyez. Donc il serait bon d'essayer de se voir comme sans faux semblant. Donc sans non plus accabler, parce qu'après le démon... Il cherche toujours à relativiser nos fautes, ou au contraire, soit à les aggraver. Donc il faut pas non plus aggraver notre situation. N'importe comment, l'essentiel, c'est de regretter nos fautes. Donc si on les regrette, le bon Dieu nous pardonne. Mais savoir d'abord le reconnaître, et voir quel pas mettre en avant pour que ça aille mieux demain. Et puis après, les péchés par rapport à nous-mêmes, donc ça peut être la désorganisation, les pertes de temps, donc la gestion du temps est capitale pour arriver à tirer mieux profit de notre vie. Et puis aussi, pour certaines personnes qui peuvent malheureusement avoir plus de tentations par rapport au péché contre la pureté, donc je rappelle que les chemins qui conduisent, donc la femme est plus sentimentale, l'homme est, lui a plus de péchés, parfois plus graves, de péchés d'essence. Mais la femme, c'est plus par la rêverie. Donc, faire attention à la curiosité, aux rêveries sentimentales, ou aussi au vide affectif qui fait qu'on cherche à le combler d'une façon qui n'est pas tout à fait dans la ligne. Donc, les rêveries sentimentales, spécialement pour les jeunes filles, il faut faire très attention à cela. Alors, qu'est-ce qui conduit à ces rêveries? Souvent, c'est l'oisiveté, donc le fait de ne pas avoir un emploi du temps suffisamment non rempli. Ou parfois c'est aussi le soir avant de s'endormir. C'est vrai que là, c'est ceux qui ont des insomnies, c'est parfois plus dur. Mais il faut essayer d'apprendre à s'endormir sur de bonnes pensées pour éviter, en tout cas, que ce soit les mauvaises pensées qui prennent le dessus. Ensuite, après, les rêveries peuvent être alimentées par des fréquentations. Donc il faut faire très attention, bien sûr, à nos fréquentations. Ou aussi par la télévision, par le cinéma, par les romans. Par exemple, le Papy XII disait que la femme, plus que l'homme, a la facilité de s'identifier au héros, quand elle lit un roman, par exemple. Et donc, il déconseillait, donc c'était pas Pie XII, donc c'était pas en ce moment-là ce qu'on voit aujourd'hui à la télé, mais c'était par rapport au roman. Il disait, aux maris, il leur donnait comme conseil de ne pas laisser leur femme lire trop de romans. Parce que, dit-il, ensuite, après, vos femmes vont rêver, donc sur le moment, ce sera très très bien. Mais à force de rêver, elles auront envie, dans la vie concrète, de réaliser leurs rêves. Et en ce moment-là, alors il y a danger, quoi. Donc je pense pas qu'il faille forcément tout interdire, Je dis qu'il faut limiter. Mais si en plus, si vous savez que vous avez en tout cas tendance à cela, donc il faut remonter aux causes et donc ensuite après voir comment progresser dans ce domaine. Ou parfois aussi, il y a certaines musiques qui peuvent aussi alimenter le poète-poète, comme je dis. Et donc, ces rêveries, ou soirées mondaines, ou danses. Voilà. Ensuite, il y a la gourmandise, les achats inutiles, la coquetterie, la complaisance en soi-même, l'orgueil, le découragement. Bon, je ne vais pas rallonger la liste indéfiniment, pour ne pas vous accabler, vous inquiéter. Mais je vous donne quelques... ce qui m'est comme ça venu par... ce qui m'est passé par la tête sur ce qui pourrait donc vous aider. Et puis faites très attention si, surtout par le passé, vous auriez des fautes que vous n'auriez pas avouées par fausse honte ou par oubli aussi, ou parce que vous êtes écarté de la religion pendant un certain temps. Donc la retraite est l'occasion de refaire les choses, enfin, de recadrer les choses. Vous voyez. Voilà. Bon, sans scrupule non plus pour les âmes qui ont tendance à couper toujours les cheveux en quatre. Hein. Celles qui ont, par exemple, font plusieurs retraites et qui ont déjà fait plusieurs confessions générales, ne vous abusez pas à encore refaire une nouvelle confession générale. Si vous êtes troublé, c'est pas le but. Hein. Celles qui n'en ont jamais fait, bon, on verra après, seraient peut-être probablement bien d'en faire, sauf si vous êtes trop inquiète. Bon. Alors ensuite, des petits conseils encore tout à fait pratiques, puisque je m'adresse à des femmes. Eh bien, quelques petits conseils. Comment éviter certaines disputes avec les hommes ? Parce qu'il arrive que les femmes se disputent avec les hommes. Donc, des petits conseils pratiques. Donc, alors ce que je dis là, si vous voulez, en ce moment-là, vous pourrez dire, oui, mais les hommes aussi peuvent... Bon, je dis que je fais aussi des retraites où on prêche aux hommes. Donc, aux hommes, on leur dit des petits conseils pratiques voilà, par rapport aux femmes. Donc là, je m'adresse aux femmes. Donc, c'est des petits conseils. C'est que, en général... on constate, enfin en tout cas j'ai constaté ça, en tout cas c'est un peu le fruit de mon expérience pastorale, du ministère, et puis bon, la connaissance donc, de la nature humaine, à un certain âge, c'est qu'un homme, en général, a besoin de phases, de périodes d'intimité et de périodes d'autonomie. Donc un homme qui est marié a besoin de périodes d'intimité, il a aussi une période d'autonomie. Et alors le problème se pose souvent lorsque l'homme, justement, est à une période où il a besoin de prendre un peu de recul par rapport à ses situations. Donc pour voir plus clair dans sa tête, lorsqu'il est un peu accablé par différents soucis, il a besoin de se refaire une santé, donc il a besoin pour ça de prendre un peu de recul. Donc il a besoin d'un petit peu d'autonomie. Et alors qu'une femme, en général, quand ça va pas très bien, souvent, elle a besoin d'intimité en ce moment-là, elle a besoin de s'ouvrir, elle a besoin de parler, elle a besoin de déballer son sac, eh bien l'homme, souvent, dans cette période-là, comme il est plutôt en période de faiblesse, quand il voit pas très clair, il est en période de faiblesse, et que l'homme, par nature, eh bien, il aime être fort. Donc quand il est faible, il n'aime pas se montrer, il aime au contraire se cacher. Donc dans cette période-là, en général, faut laisser l'homme tout seul pour la première phase de récupération. C'est-à-dire qu'ensuite, quand il aura besoin de vous, il viendra vers vous. Donc en ce moment-là, quand il viendra vers vous, il faudra savoir l'accueillir. Mais lorsque il cherche, ou il n'est pas encore très bien dans sa tête, il voit pas très bien encore où il en est, c'est pas le moment, si vous voulez, de lui chercher à lui tirer les vers du nez, parce que ça obtiendra l'effet inverse. Encore une bonne dispute en perspective. Enfin, un bon conseil, hein, maintenant. Vous pouvez vérifier dans la vie de tous les jours si ça, ce que je vous dis, correspond ou pas. Mais en tout cas, voilà. Donc, lorsqu'un homme donc entre dans sa caverne, faut le laisser entrer dans sa caverne, et plus vite il sera rentré seul, plus vite il en sortira. Et si au contraire vous lui dites non, ah, je sens quelque chose ne va pas, alors en ce moment-là, l'homme dit laisse-moi tranquille. Mais si, je vois que ça va pas. Je t'ai dit, laisse-moi tranquille. Alors, c'est reparti pour un tour. Ouais, mais justement, avec toi, on sait jamais rien. Hein. Mais fous-moi la paix. Bon. Donc, ensuite aussi, même après, bon, aux hommes, quand je les vois, je leur dis, par exemple, avant de rentrer le soir, surtout s'ils ont une journée très fatigante, il peut être bon d'essayer de mettre un peu plus de temps pour rentrer à la maison, pour pouvoir un petit peu évacuer leurs soucis. Ou soit, sinon, quand ils arrivent, c'est vrai, ils ont souvent besoin d'un petit peu de période, au moins quelques minutes, pour récupérer avant d'être tout à vous ou tout à vos enfants. Donc si dès qu'il sort du travail, vous lui sautez dessus, alors qu'il a une journée peut-être fatigante, eh bien, en ce moment-là, ça peut être encore une mauvaise soirée en perspective. Alors bien sûr qu'en ce moment-là, vous direz, oui, parce que tu crois que moi, j'ai pas travaillé aujourd'hui, alors c'est reparti pour un tour, mauvaise soirée, quoi. Donc laissez-le souffler un moment, et en ce moment-là, après, ça ira mieux. Et mais le motif ensuite, pourquoi l'homme agit comme ça, c'est que donc un homme ne fait qu'une seule chose en même temps. Et un homme qui est un peu entreprenant, c'est-à-dire un homme actif, quand il est très pris par quelque chose, eh bien, il n'a pas, en fait, de disponibilité suffisante pour penser en ce moment-là à autre chose. Et un homme fait qu'une seule chose. Il est soit tout amour, soit tout, toute réflexion, soit tout muscle, s'il fait du sport. Mais il est tout d'une pièce, un peu, vous voyez. Alors, eh bien, faut le laisser, donc, évacuer ses soucis pour pouvoir, en ce moment-là, après, pouvoir, donc, lui confier les difficultés que vous pouvez avoir. Donc un homme fait qu'une seule chose en même temps, et donc il faut éviter de le contrarier lorsqu'il est dans le feu d'une action. Parce qu'en ce moment-là, ça ira mal. Ensuite aussi, un homme, en général, est susceptible lorsqu'il se trompe. Donc je prends un exemple au volant de la voiture, par exemple. Vous avez une petite soirée sympathique, vous allez chez des amis. Vos amis ont déménagé, et il y a rendez-vous chez eux à 19h30. Bon. Très bien. Alors déjà, vous partez en retard, alors soit parce que votre mari est en retard, ou soit parce que c'est vous qui êtes en retard, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a un petit peu de retard. Et puis, baf, il se trompe sur la route. Alors à ce moment-là, si vous lui dites, ah, bah alors justement, alors non seulement tu es en retard, mais en plus, tu te trompes de route. Si tu m'avais écouté, on serait déjà arrivé. Bon, je vous dis, ça va être une soirée encore vraiment gâchée. Donc, il vaudrait mieux lui dire plutôt, ah chérie, grâce à toi, nous allons voir ce soir un splendide coucher de soleil. En ce moment-là, ça se passera déjà beaucoup mieux. Donc sachez que les hommes au volant sont susceptibles. Ensuite, après, un autre domaine très délicat, c'est le domaine des questions religieuses. C'est qu'en général, les hommes sont aussi très susceptibles sur ce chapitre de la religion. Et donc souvent, les femmes ont raison sur le fond, mais pas toujours sur la forme. À savoir qu'elles voudraient que leur mari soit plus pieux, donc prie davantage. Du coup, elles ont tendance à vouloir lui imposer. Mais alors, si vous cherchez à imposer votre manière de voir, votre manière de faire, vous obtiendrez le résultat opposé. Vous voyez. L'homme est aussi susceptible sur le plan presque religieux que politique. Donc, pour le faire changer d'avis sur le plan politique, c'est pas évident, quoi. Mais sur la question religieuse, c'est un peu pareil. Donc là, vous devriez savoir utiliser tout votre doigté et vos talents féminins, votre délicatesse, pour éviter donc de le braquer. Ouais. Et puis sinon, alors ça c'est valable aussi bien pour les hommes que pour les femmes, ça c'est clair, parce que c'est valable pour tout le monde en fait. C'est éviter autant que possible de faire des reproches lorsque vous êtes agacé. Il faut attendre d'avoir retrouvé votre calme, parce que les choses passent mieux lorsqu'on les dit gentiment que lorsqu'on les dit sous le feu de la colère. Et ça c'est vrai pour tout le monde. Et puis là où vous devez en profiter, au contraire, pour dire le maximum de choses à votre mari, c'est que, donc j'ai dit qu'il a besoin de phases de prendre du recul, et après de phases d'intimité, et donc j'espère que votre mari sait prendre conseil auprès de vous. Normalement, c'est ce que je dis aux hommes, c'est que normalement, c'est très important pour l'homme de prendre conseil auprès de sa femme. Mais en général, un homme n'apprécie les conseils que lorsque c'est lui qui les demande. Donc, profitez-en chaque fois qu'il vous demande des conseils pour lui dire tout ce que vous avez à lui dire. Parce qu'en ce moment-là, normalement, il sera bien disposé. Parce que c'est lui qui demande, profitez-en. Vous voyez. Mais si c'est vous qui lui imposez en ce moment-là, eh bien, ça se passera moins bien. Donc voilà, c'est des petits conseils. Hein, maintenant, ce sera à vous de vérifier après dans la vie de tous les jours. Mais je suis persuadé que c'est dommage, mais c'est comme ça. Hein. Avant le péché originel, le conjoint devait être un petit peu le paradis de l'autre. Et aujourd'hui, le conjoint est un peu trop souvent le purgatoire de l'autre. Mais à vous de faire en sorte que ce purgatoire soit quand même plus doux à vivre. Donc, c'est pour ça que je vous donne ces petits conseils, quoi. Donc, il y aurait comme une espèce de mode d'emploi, parce que les hommes et les femmes sont si différents, que sans le vouloir, on se trompe dans notre façon d'agir. Et donc, du coup, on comprend pas après pourquoi il y a des disputes, pourquoi il y a des mésententes. Alors que si on connaissait mieux les règles du jeu, ce serait plus facile. Ensuite, alors, pour mieux saisir nos points faibles, donc nous rappeler aussi, c'est important cela, pour mieux connaître les points faibles que nous avons tous là maintenant, alors hommes et femmes, c'est de voir de quelle manière les anges sont tombés dans le péché ainsi que nos premiers parents. Vous voyez, quelqu'un qui est tombé, bon, qui s'est cassé le bras, donc il y a une fracture du bras, donc il faut qu'il fasse attention, il y a des gestes qu'il devra éviter s'il sait exactement où est la fracture. Eh bien, nous sommes tous blessés. Et notre chute vient de la chute de nos premiers parents, donc d'Adam et Ève. Donc en raison de la chute d'Adam et Ève, il y a des blessures qui nous sont propres. Vous voyez. Alors après, en plus des blessures qui sont plus propres à la femme, et plus propres à l'homme en fonction des péchés d'Adam au moment de son péché, d'Ève au moment du péché. Mais malgré tout, il y a des indices qui nous indiquent un petit peu quels sont nos points faibles, même après le baptême. Et déjà, le péché des anges est aussi indicateur, parce que c'est les anges qui nous ont fait tomber dans le péché, et donc en fonction de leur propre faiblesse, c'est comme ça qu'ils nous ont eus. Donc le péché des anges a été un péché d'orgueil, vouloir devenir l'égal de Dieu. Donc Lucifer a refusé le plan de l'incarnation. Donc par avance, si vous voulez, les anges ont vu que Dieu un jour se ferait homme et devenait sur la terre par la Sainte Vierge. Donc les anges ont compris en ce moment-là que Dieu se faisant homme, il devrait en fait s'abaisser, en quelque sorte, devant le Dieu fait homme. Et s'abaisser même aussi devant la Sainte Vierge, en tant que mère de Dieu. Et c'est à ce moment-là, Lucifer, qui était le plus beau des anges, s'est écrié « Non serviam », je ne servirai pas. Je refuse de me plier devant un Dieu qui se fait ainsi petit enfant. Et malheureusement, le tiers des anges l'a suivi dans sa chute, d'où les anges déchus qui sont maintenant donc en enfer. Et donc les anges qui sont aujourd'hui sont en enfer, eh bien voudraient que les hommes tombent aussi en enfer, d'où les tentations donc qui ont d'abord touché Adam et Ève et qui nous touchent aussi aujourd'hui. Donc après le péché des anges, le péché d'Ève, donc le Satan qui vient trouver Ève et lui dit « Si vous mangez de ce fruit, vous serez comme Dieu. » Donc là encore, vous voyez, c'est vouloir devenir comme Dieu. Donc c'est finalement le refus d'accepter les limites de la liberté. Donc nous avons une certaine liberté, donc une certaine marge de manœuvre, parce que nous sommes des êtres libres, on n'est pas des êtres absolument déterminés, il n'y a pas de déterminisme absolu. Donc nous avons une marge de liberté, mais cette marge de liberté est limitée. Et les anges, eux avaient une marge aussi de liberté, parce qu'ils étaient aussi des créatures, donc ils étaient limités, et Adam et Ève aussi. Mais donc depuis le péché de nos premiers parents, eh bien, la tendance naturelle, c'est de vouloir élargir en fait cette marge de liberté. Donc, il est très important de nous rappeler que nous sommes créatures et en tant que créatures, nous sommes limités. Je suis limité par le fait que j'ai tel parent. Je suis limité par le fait que j'ai tel âge. Je suis limité par le fait que j'ai telle constitution physique. Je suis limité donc. J'ai des tas de limites qui sont liées à ma nature d'être humain et ensuite après le fait que je sois tel homme. Voilà. Et donc, il faut bien connaître les limites de la liberté et accepter les limites de notre liberté. Donc pour ça, si vous voulez, pour bien accepter, je pense, les limites de la liberté, il faut se rappeler que chaque créature tend vers un but. Par exemple, le soleil, il est créé pour produire lumière et chaleur. Les arbres sont créés pour produire leurs fruits. L'abeille pour produire du miel. Donc chaque créature a une fin particulière. Et c'est là son épanouissement. Donc chaque être, pour s'épanouir, doit respecter sa nature. Par exemple, le pommier, il est fait pour produire des pommes. Donc il ne peut pas produire des poires, c'est pas sa nature. Donc il est limité par sa nature à produire des pommes. Le poisson, il est fait pour vivre dans l'eau. Donc il doit respecter sa nature. Le poisson qui voudrait sortir de l'eau, eh bien il mourrait immédiatement. Et à l'inverse, l'oiseau qui voudrait vivre dans l'eau, eh bien il mourrait à son tour. Donc ce qui est vrai des animaux est vrai aussi de l'homme. Donc l'homme doit respecter sa nature. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour nous respecter notre nature? Eh bien respecter notre nature, ça veut dire ne pas me prendre pour un ange et ne pas non plus me prendre pour un simple animal. Donc je ne dois pas me prendre pour un ange en négligeant mon corps, je ne suis pas un pur esprit, j'ai un corps que je dois nourrir, que je dois respecter, sinon je perdrai mon équilibre, hein. Ceux qui ne mangent pas suffisamment ou qui ne dorment pas suffisamment, eh bien perdent leur équilibre. Et je ne dois pas davantage vivre comme un animal au gré de mes passions et de mes instincts, parce que si c'est vrai que j'ai un corps comme l'animal, j'ai un radar qui est mon intelligence, éclairée par ma foi, et qui m'indique que telle chose est bonne et telle chose est mauvaise. Donc je dois toujours faire référence à ce radar, qui est mon intelligence éclairée par ma foi, pour savoir si tel acte est bon ou tel acte est mauvais. Donc j'ai ma conscience qui, normalement, si elle est éclairée, m'indique ce qui est bien et ce qui est mal. Donc j'ai cette possibilité de dominer mes instincts. Donc si vous donnez de la viande à un chien, il va manger s'il a faim. Il va pas se dire, ah ben non, aujourd'hui je fais un sacrifice, je mange pas de viande. C'est pas comme ça qu'agissent l'animal, vous voyez, les animaux. Eh bien nous, quand on a une tablette de chocolat devant les yeux, on peut très bien dire, bah, c'est le temps de la passion, donc aujourd'hui je mange pas de chocolat, je fais un sacrifice. Donc je dois faire appel à ma raison avant de me pencher vers un bien sensible, quel qu'il soit. Et ce qui m'indique ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, c'est ma raison éclairée par ma foi. Donc nous devons tenir compte maintenant aussi, non seulement donc nous avons une nature donc qui est, comme je dis, avec une partie commune à l'ange, une partie commune avec l'animal, mais ce qui complique les choses, c'est que non seulement j'ai en moi quelque chose de l'ange, le fait d'avoir une intelligence et une volonté libre, j'ai quelque chose de l'animal, c'est le fait d'avoir un corps et d'avoir des passions, mais en plus, la partie animale, aujourd'hui, a tendance à vouloir réclamer une trop grande place. Parce que depuis le péché originel, eh bien, la partie supérieure de l'homme s'est révoltée contre Dieu, et en conséquence, la partie inférieure, aujourd'hui, a tendance à se révolter contre la partie supérieure. Donc les passions ont tendance à prendre une trop grande place dans notre vie. Donc il faut que j'apprenne à reconnaître mes passions déréglées pour arriver à les endiguer et pour faire en sorte que ce soit la partie supérieure qui triomphe toujours. Donc je suis blessé par le péché originel. Mais en plus aussi, après, donc ça c'est encore une autre donnée, donc je suis un homme et un homme affaibli, mais maintenant je suis aussi un homme enrichi d'un trésor merveilleux, ce que je disais au début de l'instruction. Depuis mon baptême, la Sainte Trinité habite en moi. Et avec la Sainte Trinité, la vertu de foi, d'espérance, de charité, les vertus infuses. Donc j'ai encore des capacités en moi qui me permettent de devenir meilleur. Donc pour pouvoir, je dirais, bien gérer ma vie, il faut que je reconnaisse que c'est qu'un homme, reconnaître qu'il y a une partie commune à l'ange, une partie commune à l'animal, que cet homme, aujourd'hui, est un homme déchu, donc qui est tombé plus bas qu'il ne l'était avant la chute, et qui, aujourd'hui, est aussi enrichi d'un trésor. Donc il y a en moi du négatif et en moi du positif. Et je suis obligé de reconnaître les deux pour être capable de gérer au mieux la situation. Donc si je fais comme si ma nature était bonne, et que je suis aveuglément toutes mes impressions, tous mes sentiments, ben certainement que je ferai des bêtises. Mais si, à l'inverse, maintenant je dis, oui, c'est vrai, je suis faible, il n'y a rien à faire, j'arriverai jamais, c'est encore une autre erreur. Vous voyez. Donc je suis capable de mieux, seulement il faut en prendre les moyens. Donc respecter ma nature signifie accepter d'être un être humain, et non un simple animal, ni un ange. Et respecter ma nature, ça signifie encore ordonner mes actes vers Dieu, vivre pour Dieu. En effet, je suis fait pour Dieu. Je dis que ma nature, elle est limitée. Donc elle est limitée par rapport à la fin. Je dis que le soleil est fait pour produire lumière et chaleur. C'est le but. Moi, je suis fait pour Dieu. Donc tout homme est fait pour Dieu. Toute femme est fait pour Dieu. Qu'on le veuille ou non. Donc là, on n'a pas de choix, si vous voulez. On est fait pour lui. Donc on ne peut pas trouver un bonheur plein en dehors de Dieu. Nous sommes faits pour lui. C'est notre nature. Seul le bien infini pourra combler pleinement notre cœur humain. Je disais qu'avant le péché originel, le conjoint devait être un peu le paradis de l'autre. J'ai dit un peu, mais pas totalement. Même avant le péché originel, donc encore moins aujourd'hui, mais même avant le péché originel, c'était pas le cas. Parce que nous sommes faits pour Dieu. Nous sommes faits pour le bien infini. Donc un bien fini ne pourra jamais nous combler totalement, vous voyez. Et donc un être, même le plus charmant, même le prince charmant, qui n'existe en général qu'en rêve, mais dans la réalité, l'homme le plus qui a le plus de qualité, il a malheureusement des faiblesses, il est limité, et donc ne pourra jamais combler pleinement un cœur humain. Parce qu'on n'est pas fait pour un homme, on est fait pour Dieu. Et donc, plus tôt on le sait, je pense que mieux cela est. Même si ensuite, après, bien sûr, comme on a des manques, il est normal que ces manques, on cherche à les combler. Et puisque l'homme et la femme sont complémentaires, c'est bien que la femme cherche à trouver l'homme qui pourra compléter ce qui peut lui manquer. Mais il faut savoir que ce côté complémentaire est tout à fait vrai, mais il y a aussi un aspect antagoniste qui reste, hélas, vrai, en raison spécialement du péché originel. Donc comme là, le soleil est fait pour produire lumière et chaleur, comme l'arbre est fait pour produire du fruit et l'abeille produire du miel, je suis fait pour louer, honorer et servir Dieu. Maintenant, s'il est vrai donc que je suis déterminé par rapport à la fin, par contre, je suis libre par rapport aux moyens. Donc pour les plus jeunes d'entre vous, donc après le bac, elles peuvent faire telles études ou telles autres études, peuvent se marier ou ne pas se marier, habiter dans tel endroit ou ne pas habiter dans tel endroit ou habiter à un autre endroit, mais en aucun cas on ne peut faire d'être fait pour autre chose que pour Dieu puisqu'on est fait pour lui. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une liberté créée n'est jamais absolue. Elle est toujours relative, elle est toujours limitée. Parce que c'est toujours, vous voyez, ce que le serpent donc inocule dans nos oreilles, toujours. Son slogan, c'est liberté. C'est toujours par la liberté qu'on a une soif de liberté, et c'est par là que souvent on plonge. et spécialement, par exemple, les adolescents et les adolescentes. C'est cette soif de liberté qui est souvent le miroir aux alouettes qui les fait déraper. Donc il faut plutôt, on arrive à bien comprendre que la liberté, elle est limitée par notre nature. Donc plus on arrive ensuite à mieux connaître notre nature, plus on pourra voir de quelle manière notre liberté pourra vraiment s'exercer. Donc ma liberté est limitée par ma nature, donc je dois tenir compte des limites de ma nature pour faire un bon usage de ma liberté. Celui qui ne respecte pas ses limites se fait du tort à lui-même. Par exemple, celui qui dit « je suis libre de manger un champignon vénéneux », ben, il va s'empoisonner. Voyez. Celui qui dit « je suis libre de boire 2 litres de vin par jour », ben, il va très vite devenir esclave de sa bouteille. Et donc, s'il est esclave, il n'est plus libre. Donc, la liberté consiste à respecter notre nature. Et celui qui use mal de sa liberté, loin de s'épanouir, il s'autodétruit. Donc, respecter sa nature, ça signifie reconnaître ses limites et se soumettre aux lois de la nature. Celui qui dirait, par exemple, j'ai rien à faire, moi, de la loi de l'apesanteur, mais si je jette par la fenêtre, ben, il va se casser la figure, hein. Il y a pas. Celui qui veut fabriquer un avion, ben, il doit connaître les lois de l'apesanteur, vous voyez, et respecter ces lois-là, parce que sinon, l'avion, soit il décollera pas, ou soit il se cassera la figure aussi, vous voyez. Le paysan qui veut avoir une bonne récolte, il doit semer ses graines à la bonne saison. Il dit, ben non, moi, je suis libre de semer quand je veux. Ben oui, mais il ne récoltera rien s'il semme pas à la bonne saison, vous voyez. Donc, le fait de se soumettre à la loi n'est pas un obstacle à notre liberté, mais au contraire, elle nous permet d'en bien user. Donc, il n'y a pas d'opposition entre loi et liberté. Donc, lorsque les lois sont naturelles, ou les lois surnaturelles, bien sûr qu'ensuite, il y a des lois arbitraires que l'État imposerait, donc là, qui peuvent, au contraire, s'opposer à notre liberté. Mais les lois naturelles, ou les lois qui viennent de Dieu, loin de s'opposer à notre liberté, au contraire, ce sont des repères qui permettent à notre liberté de s'exercer. Et ce qui est vrai, donc, des lois physiques est vrai aussi des lois morales. Donc la loi morale, comme les lois physiques, est fondée sur la nature des choses. Par exemple, si je dois aimer Dieu, mais c'est que Dieu est infiniment aimable, c'est le bien infini, vous voyez. Donc ce que le bon Dieu nous demande, c'est pas un décret arbitraire. C'est parce que Dieu est souverain bien qu'on doit l'aimer. Donc le bon Dieu, en nous demandant de l'aimer, ne nous demande pas quelque chose qui est vraiment inconvenant. Au contraire, c'est dans notre nature. Lui-même pourra nous rendre pleinement heureux. Si je dois honorer mes parents, ben c'est parce que ce sont eux qui m'ont mis au monde et qui ont voulu me donner ensuite après une bonne éducation, si grâce à Dieu on a eu une bonne éducation. Mais en tout cas, en tant qu'ils sont mes parents, eh bien, je leur dois un certain respect. Oui. Si je ne dois pas mentir, c'est parce que la parole, elle est faite pour exprimer la vérité et non pas pour exprimer le contraire de ce qu'on pense. Oui. Si du matin au soir, ben, les gens nous mentent, ou même s'ils nous mentent parfois, ben après on ne sait plus quand est-ce qu'ils nous mentent, quand est-ce qu'ils nous mentent pas. Alors, du coup, ben, il n'y a plus de dialogue possible, vous voyez. Donc, heureusement que le bon Dieu nous demande de ne pas mentir. Parce que sinon, après, il n'y a plus de vie en société dès lors que le mensonge est installé. Voyez. Donc, ma liberté m'a été donnée pour que j'observe les commandements de Dieu et non pas pour que je les enfreigne. Et quand je les enfreins, non seulement j'offense Dieu, mais je me nuis à moi-même. Et ce qui est vrai des commandements est vrai aussi des vertus. Les vertus que l'Église nous demande de pratiquer ne s'opposent pas à notre nature, bien au contraire. Alors c'est vrai qu'elles peuvent s'opposer à la partie viciée de notre être, donc elles peuvent s'opposer à Ève, mais elles ne s'opposent pas à notre nature d'être raisonnable. Par exemple, l'humilité n'est pas contraire à ma nature. L'humilité, c'est la vérité. Donc le fait de vivre dans la vérité, c'est pas contraire à ma nature. Je suis fait au contraire pour vivre dans le vrai. Et au contraire, c'est l'orgueil qui est un mensonge. L'orgueil est un mensonge. L'orgueil nous fait nous prendre pour ce que nous ne sommes pas. C'est un mensonge. Donc l'orgueil n'est pas dans la ligne de notre nature. De même, la charité n'est pas contraire à ma nature. C'est vrai qu'elle est contraire à ma nature déchue parce qu'il y a un fond d'égoïsme en moi. Mais la charité n'est pas contraire à ma nature. Je suis fait pour me donner. Et on trouve que, c'est même à mon avis, s'il y a beaucoup de divorces aussi, ça vient de là, c'est que beaucoup les hommes, peut-être par nature, sont plus égoïstes que les femmes, bien qu'il y ait des femmes qui soient très égoïstes. Hein. Mais l'homme peut avoir tendance souvent à vouloir ramener toutes les personnes à lui. Mais en fait, la femme aussi, mais bon, l'homme peut-être encore plus. Et on est fait, en fait, pour se donner. Et dès lors qu'on a compris qu'on est fait pour se donner, eh bien, c'est là qu'on peut trouver notre épanouissement. Mais tant qu'on cherche à prendre, à tirer profit de l'autre, si vous voulez, eh bien, si dans le mariage, chacun tire les draps de son côté, courage, hein. Donc c'est pas ça le mariage, vous voyez. Donc on doit se donner l'un à l'autre, vous voyez. Et il faut que les deux se donnent, messieurs. Parce que s'il y a un qui donne et l'autre qui en profite, ça va pas non plus. Mais donc nous sommes faits pour nous donner. Donc, en conclusion, pour qu'un être s'épanouisse, il doit respecter sa nature. C'est vrai des minéraux, c'est vrai des végétaux, c'est vrai des animaux, c'est vrai des hommes, c'est vrai des anges. Donc, pour moi, ça signifie accepter d'être homme et non ange, ni un animal. Ça signifie reconnaître ma nature blessée et ma nature enrichie par la grâce. Ça signifie ensuite respecter la loi morale qui doit me conduire vers Dieu pour qui je suis fait. Et donc m'accepter ensuite tel que je suis, avec mes qualités, mais aussi avec mes défauts, sans me comparer aux autres. Et donc pour terminer, je vais vous rappeler enfin aussi que donc respecter ma nature pour vous, c'est respecter votre nature de femme. Donc on a l'impression qu'il y a des femmes qui sont femmes un peu comme à regret, quoi. Ah oh, ben j'aurais bien voulu être un homme, mais enfin bon, je suis une femme, alors ma foi, ben, je vais essayer de faire avec, quoi. C'est vraiment dommage. Donc il faut essayer d'apprécier, eh bien, de vous apprécier comme le bon Dieu vous apprécie, pour ce que vous êtes, vous voyez. Et pour cela, il faut bien comprendre l'importance de votre mission. Voici ce que Henri Charlier écrivait il y a 40 ans à des femmes chrétiennes. Ô femmes chrétiennes, votre mission est grande. Vos maris, vos frères s'imaginent peut-être que tout irait mieux et même bien si on pouvait changer la forme du gouvernement ou celle de l'État. Transformer la société dans un sens ou dans l'autre. Vous-même le croyez peut-être à force de l'entendre ou de voir les hommes en discuter entre eux. Or, l'avenir est entre vos mains et non en celles des technocrates, ministres, directeurs, commissaires, conducteurs, ingénieurs, experts et référendaires. Car c'est vous d'abord qui formez les hommes, référendaires, experts, ingénieurs, commissaires, directeurs. Tous ont été des enfants, et de leur éducation, sauf grâce extraordinaire, dépendra leur comportement dans les charges qu'ils auront à remplir à l'avenir de la société entière. L'homme est libre en ce sens qu'il est responsable de ses pensées et de ses actes devant Dieu, de ses actes devant les hommes. L'homme n'est vraiment libre que s'il est toujours prêt à agir conformément à ce qu'il sait être vrai, et non libre de mentir pour arriver à ses fins. L'apprentissage de la liberté vraie se fait dans le jeune âge, par le moyen de l'éducation. Et c'est en quoi, ô femmes chrétiennes, que votre mission est grande. Tous les hommes dépendent de vous au moins jusqu'à l'âge de 8 ans. Et une éducation manquée à cet âge l'est pour toute la vie. Une bonne éducation reçue à cet âge laisse une trace ineffaçable. Ô femmes chrétiennes, on ne réformera pas la société sans vous. On ne la réformera pas par des lois. Toute réforme qui n'est pas en même temps réforme morale est vaine. La première des réformes morales est de faire dans les rapports des sexes entre eux, c'est-à-dire que les femmes soient femmes à 100% et les hommes des hommes à 100%. Car c'est dans ces rapports que repose l'avenir moral d'une race et d'une nation. Ô femmes chrétiennes, vous êtes le sel de la terre, vous êtes le cœur de la famille. Et la famille est par nature et par la grâce la société fondamentale. Vous avez, en leur donnant le jour, à compléter le nombre des élus. Par l'exemple de votre foi, à faire germer chez les prédestinés et à faire grandir la semence de grâce reçue au baptême. Oui, votre mission est grande. Vous la tenez de Dieu à l'exemple de Marie, qui a donné au monde celui qui devait être le premier-né d'entre les morts. Fuyez Ève, et comme Marie, médiatrice de toute grâce, communiquez celle que vous avez reçue à ces enfants dont vous avez la charge. Ils conserveront toujours dans leur cœur, à l'âge d'homme, ce point par où on mouille à la grâce que vous leur aurez transmis. Donc pour être vraiment libre, vous devez respecter, vous respecter, et donc aimer votre rôle de femme ou de future femme. Alors c'est vrai qu'il y en a qui sont célibataires, qui aimeraient se marier, et qui, bon, après chacune a son histoire. Donc après, faut voir de quelle manière donc vous pourrez exercer votre maternité, mais en tout cas c'est sûr que toute femme est mère par nature, et donc vous pourrez pleinement vous épanouir en tant que femme, en exerçant votre maternité d'une manière ou d'une autre. Donc, chacune d'entre vous a son histoire, que vous soyez fidèle ou converti sur le tard. Donc, quelle que soit votre vie passée, reconnaissez aujourd'hui la miséricorde de Dieu sur vous. Donc, celles qui ont un passé peut-être plus houleux, plus douloureux, reconnaissent encore mieux la vérité de ce que disait un père dominicain. Le péché ne donne ni la liberté, ni la richesse, ni le bonheur. Donc la vraie richesse, donc la vraie liberté, le vrai bonheur, ne se trouve que dans la fidélité à notre devoir et dans la recherche d'une vie d'intimité avec Dieu. Donc profitez de cette retraite donc, pour voir de quelle manière, peut-être, dans l'année passée ou les années passées, vous aurez pu faire donc un mauvais usage, soit de votre liberté, de votre argent, de vos sens, et de le reconnaître ensuite en toute simplicité devant le bon Dieu. Donc suscitez en votre âme une grande contrition, en gardant toujours une grande confiance dans la miséricorde de Dieu. Nous nous rendons à la chapelle pour une petite prière.